avec mes invités, tout de suite mes différents invités, focus sur les journées du patrimoine qui arrivent ce week-end. Et les journées du patrimoine, c'est ce week-end, deux jours qui permettent à tous les publics de découvrir de nombreux lieux ou musées gratuitement. C'est le cas, bien sûr, à Nevers, tour d'horizon de ce qui est proposé avec Marie-Lise Chevalier. Elle est chef patrimoine et transmission pour la ville de Nevers. On ira à la maison aussi, la Seine conventionnée de Nevers qui ouvre ses portes juste avant un arrêt à la faïencerie Georges qui participe à Nevers en bleu. Extrait d'une émission que vous retrouverez semaine prochaine. Je reçois Carole Georges. Vous ne faites rien pour les journées du patrimoine qui arrivent là dans quelques jours. En revanche, vous êtes présente à la programmation de Nevers en bleu. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui.
C'est un petit peu aussi une manière de mettre le patrimoine en avant. Nevers en bleu, c'est des journées du patrimoine à côté de celle officielle, on va dire, du week-end.
Oui, voilà, c'est ça. C'est, d'ailleurs, les organisateurs ont dû fait exprès de mettre ce petit festival tout nouveau et tout... qui est super, hein, de Nevers en bleu. Et donc ça a commencé samedi, ça se termine le 6 octobre. Et donc, donc il y a des expositions à l'église Sainte-Marie, au musée de la Faïence, à la Verrière, chez Arco. Donc il y a des expos un peu partout. Et puis après, il y a des ateliers aussi. Nous, on expose des pièces au musée de la Faïence.
Ouais.
Et puis, à côté de ça, dans notre faïencerie, on fait des petits ateliers de décors sur biscuit avec des crayons d'oxyde et des engobes. Donc, ça, c'est ouvert jusqu'au 6 octobre, tous les jours, sans réservation.
Décoration sur biscuit.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Alors, le biscuit, c'est...
Oui, c'est pas un biscuit, c'est
non,
pas...
Voilà. On le mange pas. Hein, ouais. Il faut pas le manger. C'est la terre, en fait, qui est cuite, mais qui n'est pas émaillée. Donc
d'accord.
En fait, c'est comme des pots de fleurs en terre rouge. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette substance, cette matière. Donc, on vient dessiner dessus, sur des petites assiettes. Et ensuite, on émaille, on cuit. Et les gens viennent récupérer leurs pièces une fois que c'est cuit et terminé.
Donc ça, c'est possible de le faire tous les jours?
Ouais.
Ça dure combien de temps?
Oh, ça dure 10 minutes.
Ouais, voilà, en plus c'est assez rapide, ça permet aussi à toute la famille de pouvoir venir, les plus jeunes.
Oui,
aussi,
voilà, Et on fait des petites assiettes à 8 € et des un peu plus grandes à 12 €, voilà.
Ça permet d'avoir un petit souvenir de la faïencerie Georges, à l'occasion donc de ce festival Nevers en bleu dont vous faites partie. Quand les organisateurs sont venus vous voir, vous avez dit direct, on fonce?
Oh bah oui, parce que c'est... ils ont ouvert ce festival à tous les gens qui font des choses, en fait. Qui créent, qui font. Enfin, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que de la céramique. Hein,
il y a de la peinture. Il y a plein de formes d'art possibles.
Ouais, oui, c'est vraiment très ouvert. Et du coup, bah oui, forcément, on avait super envie de participer. Puis pour une, enfin, c'est bien aussi que. Qui est un événement autour de l'artisanat, l'artisanat d'art à Nevers, parce que c'est quand même une ville d'art et d'histoire.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après un atelier faïencerie, direction les coulisses de la maison avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, super.
Ouais, t'es le chargé de communication de la maison, la Seine conventionnée à Nevers, l'ancienne maison de la culture.
Pour exactement.
Les personnes qui nous écoutent, alors ils te connaissent quand même un petit peu parce qu'on te retrouve tous les mercredis sur BAC à midi pour ton émission Culture en Vrac où tu parles de l'actu de la maison. Et puis moi, je voulais en profiter justement pour te recevoir à l'occasion de cette émission pour les journées du patrimoine parce que la maison ouvre ses portes justement pour les journées du patrimoine. Une visite de la maison, c'est assez intéressant, très intimiste aussi dans les coulisses de cet endroit qui est vraiment un endroit du patrimoine neversois.
Exactement, c'est une maison qui est sortie de terre à la fin des années 60, donc on a quand même un bâtiment qui représente aussi une époque, hein, c'est-à-dire que quand elle est sortie de terre, elle est montée, les neversois en tout cas, les nivernais, ils ont un petit peu hurlé parce que c'est vrai qu'elle dénote complètement par rapport au patrimoine autour. On est juste au bord des remparts, proche de la cathédrale, du palais ducal.
Le bord de Loire, ouais.
Quand ce bâtiment est sorti de terre, ça a fait un petit peu l'émeute. Mais malgré tout, on s'y est un peu habitué. En tout cas, le public s'est un peu habitué, les gens aussi. Et ce bâtiment, finalement, il représente un petit peu une forme d'austérité, parce qu'on est un bâtiment typique des années 70. Et pourtant, à l'intérieur, c'est vachement sympa. Et surtout, le principe, c'est de pouvoir... Parce que quand vous venez au spectacle, vous arrivez dans les salles, vous installez, vous repartez. Ouais. Et en fait, c'est un bâtiment qui est énorme, qui est gigantesque, hein, ouais, 15 000 mètres carrés au sol. Et en l'occurrence, avec 7 niveaux différents, les loges, la fosse d'orchestre, il y a tout un tas de lieux à découvrir que vous ne connaissez pas.
Ces visites, il y en a deux de prévues, le samedi 21 septembre et le dimanche 22 septembre, 10h30, 14h30 pour les deux jours.
Oui.
C'est une visite à la fois intérieure et extérieure de cette maison.
C'est une visite intérieure-extérieure, on l'espère, si jamais le temps s'y prête. Notamment, on peut aussi passer sur les coursifs, parce que ça permet de comprendre aussi les travaux qui ont permis l'étanchéité du bâtiment d'une part, et puis également les économies d'énergie qui ont été menées par la croissance verte. À une certaine époque, on a eu des fonds européens qui ont permis d'isoler le bâtiment d'une manière plus importante, parce qu'un bâtiment 70, c'est une jolie passoire thermique. Et ensuite, bien sûr, en ce qui concerne par exemple le mur trombe avec la paroi de verre qui permet de récupérer la chaleur en hiver, etc. Moi, je vous explique tout ça, donc on espère que le temps soit de la partie pour qu'on puisse aussi voir comment il est fait de l'extérieur.
Il y a un côté culturel, un côté historique aussi, finalement, de montrer comment cette maison elle a su évoluer avec son temps et en fonction des demandes aussi, peut-être, du public.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a suivi les politiques culturelles, parce que la politique culturelle en France, depuis les années 70, mais puis même un petit peu avant avec Malraux, parce que c'est lui d'ailleurs qui a lancé cette démarche de créer des maisons de la culture un petit peu partout en France. Le projet n'a jamais vraiment abouti, puisqu'il n'y en a pas 95 comme les départements, il y en a, je crois, une grosse quinzaine. C'est les politiques culturelles ont permis aussi d'avancer et de faire évoluer les choses. Et c'est vrai que ce bâtiment, il a évolué sous des régimes municipaux. Maintenant, c'est une délégation de service public, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas les mêmes intérêts. Et puis, bien sûr, par rapport au public, ça représente aussi des besoins, des demandes.
Ces visites, ce sera aussi l'occasion pour le public de se mettre dans la peau d'un artiste avant de monter sur scène. Parce qu'il y a les côtés publics que le public ne voit pas, ne va pas forcément. Et aussi les coulisses d'un artiste avant de monter sur scène, les loges, etc.
Exactement. C'est-à-dire qu'on peut faire le chemin des loges en allant sur la grande scène par exemple, et puis on se retrouve face au public. Alors là, les sièges sont vides, mais on peut s'imaginer aisément ce que ça représente d'être devant une salle de 1000 places, qui est une salle énorme chez nous. Et en l'occurrence, l'important, c'est le fait que ça soit très imposant. Le plateau, généralement, quand les gens viennent au spectacle, il y a les coulisses qui cachent tout. On a un plateau qui fait quand même 25 mètres de large par exemple. On s'en rend pas compte quand on est dans la salle, et tout ça, on s'en aperçoit directement lorsqu'on est sur le plateau.
Tu évoquais le fait que le public arrivait et repartait à la fin du spectacle, ce qui est logique. Pour que ce spectacle se passe bien, il faut aussi du personnel, que ce soit aux lumières, au son, à la technique. En général, ce sera aussi l'occasion de mettre en avant ces personnes de l'ombre, entre guillemets.
Exactement, c'est-à-dire qu'on passe aussi par la régie, et je vais rapidement expliquer quelles sont les personnes qui travaillent derrière la régie, que ce soit avant, pendant et après les spectacles, notamment toutes les gens qui travaillent au plateau, et puis également tous les personnels que nous avons dans cette maison. Nous avons 23 salariés, ce qui est une grosse équipe, et donc il y en a un petit peu à tous les niveaux, comme tu l'as dit, en com, relations publiques, l'entretien, et on parle, j'essaie d'évoquer toutes ces personnes que les gens ne voient pas en spectacle. Nous, on a l'occasion de voir le public régulièrement, on est directement là à l'accueil, mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent à toute l'organisation, parce que c'est une organisation absolument énorme, dont on n'a pas toujours vraiment l'idée en tête de ce que ça représente comme boulot.
Toi, quand tu prépares cette visite, tu apprends, j'imagine, beaucoup de choses aussi que tu ignores peut-être sur ce lieu.
J'ai essayé de récolter un maximum de choses, on va dire d'informations par rapport au patrimoine, parce que l'histoire de ce bâtiment, par rapport l'histoire du quartier, notamment l'ancien quartier des Pâtis. Donc là, il y a toute une histoire, puisqu'avant, il y avait quasiment la Nièvre qui passait en dessous de la maison de la culture. Voilà, c'est une chose. Et puis après, par rapport bien sûr à l'histoire du bâtiment, les choses qui se sont succédées, j'ai pas mal appris avec par exemple les régisseurs généraux, les directeurs techniques qui étaient là avant, qui m'ont raconté que des petites anecdotes.
Oui, parce que
toi, j'ai mardonné.
En 70, t'étais pas là encore.
J'étais pas encore là. J'étais pas loin d'être là, mais en l'occurrence, j'étais pas encore là. Donc par exemple, j'ai des petites anecdotes assez sympas, assez croustillantes aussi sur ce bâtiment. Qui permet aussi d'évoquer, on va dire aussi par exemple les traditions et puis un petit peu les croyances, les superstitions, parce que les gens du théâtre sont très superstitieux. Alors on évoque tout ça, on voit un peu aussi les costumes, etc. On essaie d'être le plus large possible. Alors c'est pas toujours facile en 1h, 1h30, 1h45, surtout qu'il y a beaucoup de questions généralement.
1h45, c'est ça la durée.
C'est bien si on veut faire une visite complète et que vous ne vouliez pas passer à côté de certains des aspects de ce bâtiment. Il faut simplement être en condition physique à peu près correcte, parce qu'on monte quelques étages, le bâtiment bâtiment fait 7 étages. On n'a pas d'ascenseur. Enfin, on a un ascenseur qui fait un étage, mais on ne va pas faire les autres. Donc, du coup, il faut quand même. On a une petite marche à faire, mais il n'y a rien de trop physique non plus. Ouais. Ne vous inquiétez pas.
C'est l'occasion aussi, ces journées du patrimoine, d'amener un nouveau public à la maison.
Exactement. C'est aussi, bien sûr, un public qui se pose des questions sur ce bâtiment, qui n'a pas l'habitude de le fréquenter, parce que justement, c'est un bâtiment assez imposant et peut-être un petit peu pas effrayant, mais en tout cas, on se dit, bon, c'est pas un bâtiment qui est pour moi. Et pourtant, ce bâtiment, on accueille du public extrêmement varié. Il y a le principe des maisons de la culture, à la base, de l'idée d'André Malraux, c'était que la culture soit accessible à tout le monde, pour toutes les couches de la société. Et c'est
pour tous les goûts aussi.
Et pour tous les goûts. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaie toujours de développer, de maintenir. Donc, si vous ne connaissez pas ce bâtiment, si vous avez envie d'en savoir plus et peut-être un jour pousser les portes de nos salles, eh bien n'hésitez pas, cette visite est faite pour vous.
Samedi 21, dimanche 22 de 10h30, 14h30, 10h30, 14h30 les samedis et dimanche, il faut réserver.
Il faut réserver auprès de la billetterie, c'est gratuit, 03 86 93 2x09, n'hésitez pas.
Merci beaucoup Gaëtan, merci. Et on termine avec un tour d'horizon des possibilités pour ce week-end. Et il y en a beaucoup. Marie-Lise Chevalier est chef de service pôle patrimoine et transmission à la ville de Nevers. Elle nous parle justement de toutes ces possibilités. C'est un extrait d'une émission que vous retrouverez demain à 18h30. Elle sera ma dernière invitée de cette semaine, Marie-Lise Chevalier. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur cette expo qui est le voyage autour du monde. Elle a commencé le 5 juillet, elle se termine dans quelques jours maintenant, le 6 octobre. C'est un petit peu ces dernières heures, ces journées européennes du patrimoine. Là, on parle d'un réseau, un long réseau, un réseau maritime pour le coup, un petit peu.
Oui, effectivement, on aurait pu concevoir d'ajouter le petit logo patrimoine maritime, effectivement. Puisque c'est une histoire qui nous mène donc de la Nièvre jusqu'à l'Antarctique, avec deux navigateurs qui sont partis donc au début du 19e siècle avec Jules Dumont d'Urville pour faire un tour du monde. Et ils ont découvert la Terra Adélie. Donc on présente des objets qui viennent de ce voyage, des livres. Et c'est une véritable aventure qui pose aussi plein de questions parce que ces Européens du 19e siècle, ils portent un regard condescendant, je pense au moins on peut dire ça, sur les populations qu'ils rencontrent.
Elle est intéressante cette expo, pour l'avoir vue, c'est assez impressionnant la conservation qu'on peut avoir de certains objets qui ont connu un périple fou jusqu'à arriver dans ce musée à Nevers. L'articulation, elle est importante aussi de cette exposition. C'est là où votre rôle arrive vraiment en compte dans cette exposition. C'est l'articulation qu'elle doit avoir, le sens aussi qu'elle doit avoir, de commencer par ce point-là, terminer par ce point-là, avec des décorations murales aussi qui peuvent être importantes, etc.
Oui, il y a tout un rôle de la scénographie qui est important pour faire en sorte que les personnes comprennent le propos, effectivement. Et là, on recoupe peut-être un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il ne suffit pas de donner un contenu, il faut le mettre en forme de telle sorte qu'il puisse être compris et même parfois ressenti en réalité. Donc c'est le rôle de la scénographie et c'est un travail qui est mené en collectif au sein du musée.
Au sein du musée, on va retrouver aussi autre chose qui est plus sur le côté botanique, enclose, des histoires ondulantes. Ce sont des expositions qui arrivent par d'autres organismes ou c'est vous qui mettez en place ces expositions-là à l'occasion des Journées du patrimoine ?
Alors cette proposition, elle émane du Centre d'art contemporain, le Parc Saint-Léger, que vous connaissez sûrement très bien. Ça fait partie d'une série de partenariats qui ont été initiés, me semble-t-il, en 2021. Et donc on propose plusieurs choses avec des artistes qui viennent sur site et qui créent sur site. Donc on a eu en début d'année l'exposition Yann Lacroix, qui était très conséquente. Là, c'est une installation plus légère qui investit effectivement le jardin.
Et donc c'est à découvrir le samedi, dimanche également, 21-22 septembre, entrée libre à partir de 10h, 18h, gratuit à l'image aussi de cette exposition Voyage autour du monde. Et puis toujours dans le cadre du patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, il y a la rue du commerce à la loupe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va découvrir? En fait, c'est l'évolution du temps. Comment le temps a fait ses marques dans cette rue du commerce, parce que c'est ça aussi le patrimoine, c'est montrer les effets du temps sur un lieu.
Oui, et puis un lieu qui est très familier. Alors c'est une exposition qui est proposée par le service des archives de l'agglomération, Donc qui conserve effectivement des traces très intéressantes de cette évolution de rue depuis le 19e siècle. Et donc les personnes qui habitent à Nevers depuis quelques temps vont redécouvrir, revoir des images qu'ils connaissent. Et puis pour les autres, bah, ce sera l'occasion justement de renouveler leur regard sur la rue François Mitterrand.
Mêmes horaires hein, justement pour retrouver cette exposition au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, entrée libre et gratuite bien évidemment à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine. Soldats du feu, la Nièvre au rythme des sports, la journée du patrimoine aussi au château de Mauss avec une exposition de véhicules anciens. Alors là, ce sont des infos que vous communiquez plus qu'autre chose. Finalement, est-ce que vous avez quand même un regard sur ce qui peut se faire lors de ces expositions-là ou pas spécialement ?
Alors bon, les deux cas sont un petit peu différents parce que l'exposition de la médiathèque, on travaille très étroitement bien sûr au sein des services municipaux. On se prête régulièrement des objets et des documents. Donc on est lié de façon plus proche à cette production. En revanche, effectivement, nous on laisse aussi les lieux faire leurs propositions. Et effectivement, à la fois donc au sein du service patrimoine de la ville et aussi au sein de du service culture de l'agglomération, les informations sont compilées, on va dire, dans le livret.
Et d'ailleurs, la médiathèque Jean Jaurès qui propose également une animation en lien avec l'exposition, qui est une braderie de documents déclassés à la médiathèque Jean Jaurès, alors pas en lien avec, avec l'expo Soldats du Feu, mais en lien avec justement ces journées du patrimoine. Confiez-nous vos archives sur le sport nivernais, ça, ce sont les archives départementales. Et puis le Rallye National 7, ça a commencé il y a quelques heures pour la rediffusion vendredi soir. Mais c'est vendredi soir à partir de 18h, le rallye de la Nationale 7 dans ce patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions. Et c'est une nouveauté, si j'ai bien compris.
Tout à fait. On a expérimenté pendant le festival d'été Garden Party au musée une forme de jeu de piste qui amène les personnes à... les visiteurs, bien sûr, à interagir avec des personnages. Donc on a souhaité proposer pour les journées du patrimoine un format encore plus large, donc cette fois dans la ville. Et donc les personnes qui vont se lancer dans cette aventure vont devoir remonter la Nationale 7 en retrouvant des indices et en croisant ici et là quelques personnages sortis des années 50.
Alors ce qui se fait à pied, hein, donc, hein, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Ça se fait pas en voiture. Pour les personnes qui nous écoutent, ne prévoyez pas. Donc ce sera beaucoup de mise en scène, j'imagine, avec des personnes présentes, c'est ça ?
Oui, il y aura... Alors en fait, il y a des indices à chercher en autonomie.
D'accord.
Et puis il y aura aussi un petit peu d'interaction avec des personnages qui pourront donc vous expliquer... avec des détails supplémentaires encore, ce qu'était la Nationale 7.
C'est à partir de 18h hein, jusqu'à 21h, c'est gratuit, c'est sans réservation. Et on invite bien sûr les personnes qui nous écoutent à partir à la découverte donc, de ces personnages à travers cette Nationale 7 mythique. Là, on est vraiment au cœur du patrimoine des réseaux et des connexions à travers cette Nationale 7.
Ah oui, tout à fait.
Cluny, à la loupe également. Alors, on ne va pas pouvoir revenir dessus parce que forcément, là, ce sont des propositions extérieures, mais l'importance de les mettre dans ce livret, bien sûr. Une démonstration de verre soufflé également à la Verrière, par exemple, à Nevers, c'est au 38 rue François Mitterrand. Décorer votre assiette, ça, c'est proposé donc par ce qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, la faïencerie Georges. Et puis, bâtir une cathédrale également à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette de Nevers. C'est un atelier. Là, c'est ce qu'on disait encore, le principe vraiment de faire participer les spectateurs à ces journées-là et de leur dire vous êtes aussi acteurs.
Bien sûr. En l'occurrence, c'est une proposition d'une association qui s'appelle Regards sur la cathédrale et donc qui se donne pour mission d'animer en particulier ce lieu mais aussi d'autres églises de Nevers. Donc on est aussi de nombreux acteurs déjà autour du patrimoine à communiquer, à diffuser.
Dans les autres lieux qui ouvrent leurs portes également, il y a l'espace patrimoine au Palais Ducal. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet espace du patrimoine ? Est-ce qu'il rentre déjà dans un des thèmes des journées du patrimoine, qui est les itinéraires, les réseaux et les connexions, ou pas spécialement ?
Alors oui, en quelque sorte, puisqu'on y parle quand même largement de la Loire et du transport fluvial. Donc on pourrait effectivement le faire rentrer dans cet onglet-là. Mais de manière plus générale, l'espace patrimoine, c'est tout simplement l'endroit où on peut avoir les clés de sa ville, à la fois donc pour les touristes et pour les habitants. Et donc on découvre à la fois l'évolution historique de Nevers, l'importance de la Loire et également un certain nombre de monuments majeurs.
On va pouvoir visiter aussi le centre d'ingénierie de la SNCF. Si je ne me trompe pas aussi, il y a le centre Tanéo. dans les possibilités de visite. Alors ça, c'est assez étonnant, mais ça rentre évidemment dans ce thème des itinéraires et des réseaux. C'est vous qui avez demandé à ces lieux d'ouvrir à cette occasion ou pas spécialement ?
Alors, il me semble qu'effectivement, pour Taneo, il s'agit d'une demande de la part du service culture de l'agglomération.
D'accord.
En revanche, du côté SNCF, c'est plutôt une volonté de mettre en valeur en fait les bâtiments dans lesquels ils sont installés. Donc, parce que bien que ce soit des entreprises, ils peuvent avoir des locaux qui, eux, ont un caractère patrimonial marqué.
Dans le reste, bien sûr, des visites, on peut aller à le cinématographe, pardon, Pascal Rigaud, c'est la visite d'un musée privé. Il y a l'hôtel de ville de Nevers, la maison également, la préfecture de la Nièvre. C'est important aussi, le théâtre municipal, d'ouvrir ces lieux où les gens vont des fois de manière ponctuelle pour un spectacle, et là de leur dire vous pouvez rentrer dans l'intime finalement de ce bâtiment aussi.
Oui, bien sûr, il y a un aspect coulisses, donc qui est particulièrement perceptible pour la visite de la maison. Puis il y a aussi des lieux où on se rend, mais dans des circonstances pas forcément agréables. Je pense notamment au palais de justice, qui va être ouvert samedi matin. Alors malheureusement, c'est pas dans le livret, c'est une info de dernière minute. Mais il sera donc ouvert entre 10h et midi, et il y a des salles vraiment magnifiques à l'intérieur. Donc là, c'est l'occasion d'y aller. Voilà, pour profiter simplement.
Il y a des espaces aussi que les gens ne connaissent pas forcément. On parle des espaces de certains lieux, peut-être des fois intimes. L'espace Microfolie, on en a parlé à un moment donné sur BAC, je me rappelle, j'étais venu faire un reportage et on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas forcément ce lieu, l'avait entendu comme ça, par-ci, par-là, sans vraiment savoir. Donc c'est quoi l'espace Microfolie ?
Alors l'espace Microfolie, c'est, moi je le résumerais sous la forme d'un musée numérique. Un musée dans lequel il y aurait des œuvres, non seulement des objets, mais également des œuvres musicales, par exemple. Il y a des extraits d'opéra. Et donc, toutes ces œuvres sont issues de collections nationales. Donc, des musées nationaux, des productions des grands théâtres. L'idée, c'est de rendre accessibles toutes ces œuvres à toute personne, où qu'elle soit en France. Voilà. Et en l'occurrence, au musée, puisque la Microfolie est au musée, on va le redire.
Oui, oui, bien sûr.
Ça permet de créer aussi un lien entre nos collections et puis ce qui se trouve dans d'autres lieux patrimoniaux.
À travers tout ce qu'on a évoqué, et on en a évoqué peut-être que la moitié, dans le détail du moins, est-ce que c'est une preuve, mais c'est une preuve positive, que 2 jours, c'est pas assez pour voir le patrimoine de Nevers ?
Bien sûr, personne ne pourra faire l'intégralité du programme, ça je le dis tout de suite, il n'y a pas de moyen. C'est une porte d'entrée en fait, c'est une opportunité de découvrir tous ces lieux avec des guides parfois et de manière gratuite. Et peut-être que ça donne envie effectivement de continuer l'expérience après.
Alors des fois on dit demander aux spécialistes, si vous, je vous demande quels sont vos coups de cœur, si par exemple de mon samedi matin à mon dimanche midi, après-midi, tout est libre, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Pour ces journées du patrimoine.
Ouais, c'est une très très bonne question. Alors,
moi, c'est la dernière, c'est toujours la meilleure.
Je tenterai un programme un peu chargé. Je commencerai peut-être par aller du coup au palais de justice, comme c'est ouvert en libre, pas compliqué. Puis peut-être une visite de l'hôtel de ville, c'est intéressant, entre un guide qui explique le côté patrimonial et un élu. Dans l'après-midi, disons, j'irai...
C'est important aussi ça que les élus, qui ont ce côté très politique, forcément en eux, c'est normal, c'est leur rôle, mais puissent évoquer aussi un lieu à ces gens du patrimoine. Ça permet aussi de casser cette barrière qu'il peut y avoir entre le public et les élus, des fois.
Oui, mais d'autant qu'en fait, les élus sont impliqués de manière active dans ce genre d'événements comme les journées du patrimoine, où ils viennent en fait proposer des choses. Et donc, la visite de l'hôtel de ville, c'est aussi un engagement de la part des élus pour faire découvrir une part de la vie citoyenne qui peut paraître effectivement un peu éloignée parfois.
Alors on continue. On va où ?
Alors,
moi la N7 ça me branche bien déjà.
Ah bah oui,
vendredi soir.
Bien sûr,
ça,
bien
c'est
sûr.
Pas mal déjà.
Moi ça il faut le faire.
Il y a beaucoup de choses vendredi soir.
Après,
partout.
Dans l'après-midi, pourquoi pas aller au musée pour commencer. Petite visite de l'exposition temporaire. Je vais vous épuiser par contre, hein, je vous préviens.
Ouais, écoutez, je bosserai pas le lundi, c'est pas grave.
Et puis bon, Je vous le dis quand même, la préfecture, il n'y a plus beaucoup de place, donc a priori, ça serait une bonne idée pour le samedi après-midi, mais ça risque d'être un petit peu
Important
chargé.
De dire qu'il y a certaines visites où il faut réserver, d'autres sont en accès libre, mais d'autres il faut réserver.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, le dimanche, moi j'irai en haut de la tour Boyer, voilà. Parce que c'est quand même une belle proposition.
Pour avoir une belle vue panoramique
voilà,
de
c'est
Nevers.
Ça. Et puis, l'après-midi, on pourrait peut-être finir par une visite du théâtre municipal.
Oui, c'est sympa. Ça, je l'avais fait l'année dernière. C'était très sympa.
J'ai pas... Mais oui, mais quand même, on n'a pas été à Mauss. Bon, il y a plein de possibilités.
Ouais,
mais...
C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, ceux qui nous écoutent ont noté. C'est évident. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci. Je rappelle que vous êtes chef du service patrimoine de la ville de Nevers. Merci à vous.
Merci.
Voilà Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une très belle après-midi et nous on se retrouve à 18h30 avec mes invités du soir pour parler d'un festival qui arrive lui aussi ce week-end, le festival des légendes de Nevers. On en parle avec mes deux invités Thomas Petinato et Cyril Nourry à tout à l'heure 18h30.